De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, les comédies s'enchaînent. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Nicky Larson, voici que le dernier film d'Otteniente avec Franck Dubosc déboule sur les écrans. Alors, on aurait pu le voir, mais on a préféré vous emmener vers d'autres contrées cinématographiques et vous ne le regretterez pas. On va notamment parler bien du gros projet que James Cameron a laissé à un autre réalisateur, Manu.
Alita, donc Battle Angel, que Roberto Rodriguez, cinéaste d'origine mexicaine, a réalisé. Et puis je vous parlerai aussi de La Favorite, le nouveau film du grec Yorgos Lanthimos.
Qui est passé donc lui aussi du côté des États-Unis, d'Hollywood. Marine.
Et moi je vais vous parler d'une curiosité, un film belge qui s'appelle Un ange avec Vincent Rottier.
Et puis, il sera question aussi de My Beautiful Boy. Hein,
oui, sur lequel on n'a pas du tout été d'accord avec Manu. Moi, j'ai adoré et lui, pas du tout.
Petite joute verbale, ce sera en fin d'émission. Et puis, moi, je vous parlerai du Silence des autres. C'est un documentaire admirable. Documentaire espagnol de Almudena Carracedo et Robert Barr, son compagnon. Et on écoutera la réalisatrice qu'on a eu le plaisir de rencontrer. Mais on débute avec bien le blockbuster très attendu. Donc, c'est James Cameron qui voulait adapter ce manga. Et finalement, il a confier la réalisation à Robert Rodriguez, qu'on écoutera d'ailleurs dans cette émission Cinérama.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi?
La femme dans mon souvenir m'appelait 99.
La vision que tu as eue était comme un flash de ta vie d'avant.
J'étais qui?
Un jour, ça te reviendra.
Alors la transposition des mangas japonais au sein de l'industrie hollywoodienne n'a pour l'instant guère brillé par son innovation. Si on se souvient, le récent Ghost in the Shell en est l'illustration la plus flagrante, répondant donc du coup à des impératifs visant à simplifier jusqu'à l'absurde l'original de Mamoru Oshii, qui était un sommet de l'ASF alliant des concepts philosophiques et métaphysiques. Alors on pouvait espérer là du coup une agréable surprise avec l'adaptation du manga Gum, déjà porté à l'écran en version animée en 1993 dans un moyen métrage de 54 minutes. Alors déjà, les fans de la BD de Yukito Kishiro n'étaient pas satisfaits du résultat. Hein. On sait très bien que les amateurs de BD sont très très difficiles. Alors depuis plus de 15 ans, James Cameron rêve de porter ce projet à l'écran pour un film live, ayant d'ailleurs à l'époque, je crois que c'était en 2003, acheté les droits. Alors rien d'étonnant de la part du géniteur de Terminator de le voir s'intéresser à une œuvre cyberpunk mettant en scène une androïde guerrière ayant perdu la mémoire. Entre-temps, il a réalisé Avatar et puis il a laissé le projet en suspens. Alors, occupé du coup par les suites, les suites d'Avatar, Cameron se contente de produire et d'écrire le scénario, laissant le soin à au pote de Tarantino, Roberto Rodriguez, de mettre en scène le film. Alors, un choix surprenant quand on connaît le penchant potage du Mexicain, d'une nuit en enfer à Planète Terror, en passant par Machete. De mémoire, Rodriguez n'a jamais vraiment conçu de film sérieux, le second degré étant même une constante de son univers. Mais l'intéressé le signifie à longueur d'interview. Il s'agit davantage, on va dire, d'un film de James Cameron ayant supervisé l'ensemble du film. Alors, discours promotionnel oblige, même si la patte du cinéaste est en fait parfois présente.
Alors, tu en parleras après qu'on ait écouté, effectivement, Roberto Rodriguez qui était présent à Paris. Alors, cette interview nous a été donnée par le distributeur La Fox et on s'est permis de le traduire.
Vous m'avez raconté la guerre, la terre qui tremblait, le ciel qui brûlait. Mais ça ne doit pas être comme ça.
J'ai découvert cette histoire en lisant le scénario de James Cameron, pas le manga. J'ai d'abord lu le scénario, j'ai adoré. Ensuite seulement, j'ai vu le manga, j'ai vu comment Cameron avait réussi à en faire une histoire cinématique qui parlait au monde entier. Il a vraiment fait un travail là-dessus, sur l'adaptation. Il a gardé l'essence du manga, mais a créé quelque chose de plus. Même l'auteur, Kishiro, l'a reconnu. Il a été surpris par la dimension émotionnelle du film. C'est bien plus développé que dans le manga. Kishiro n'a pas écrit un roman graphique purement asiatique. Il a représenté une société cosmopolite. Ça ressemble plus à Kansas City. James Cameron s'est rendu compte que, scientifiquement, il fallait se rapprocher de l'équateur pour que l'ascenseur spatial fonctionne. Donc, il avait pensé à une ville comme Panama, et ça donne au film une atmosphère très différente des dystopies habituelles. C'est plus chaleureux, on ressent mieux le côté cosmopolite. C'est l'une des rares villes à avoir survécu, donc tout le monde s'y réfugie. C'est ce qui nous a permis de faire quelque chose de plus universel, qui parle au plus grand nombre.
Quand je t'ai trouvé, ton cerveau très humain était miraculeusement intact.
On se sent seul quand on ne sait pas qui on est.
La mémoire te reviendra.
James Cameron m'a appris quelque chose. D'habitude, je donne dans le fantaisiste, parce que je viens de la BD. Je me dis que le public n'a pas besoin de savoir comment ça marche, qu'il fera appel à son imagination. James est différent. Il disait, comment ça marche? Comment recharger l'arme? C'est pas crédible, ça me fait perdre le fil. Donc j'ai dû revoir ma façon de faire et ne pas autant compter sur les effets spéciaux. Je n'ai pas tout filmé sur fond vert comme pour Sin City. J'ai construit un vrai décor, je me suis entouré de vrais acteurs. Par exemple, Rosa Salazar croque vraiment dans une orange. Il fallait que ce soit réaliste. Alita, en image de synthèse, devait coller avec le reste. Les effets spéciaux sont là pour accentuer le réalisme, pour renforcer la crédibilité. Ce ne sont pas juste des effets spéciaux. C'est ce qui nous a guidés lors du tournage, alors que je ne serais pas forcément parti là-dessus.
Ce corps, je me sens reliée à lui, je peux pas l'expliquer. Vous en savez plus sur moi que vous ne le dites.
Il y a des choses qu'il vaut mieux oublier, Alita.
Tout vient de l'œuvre de Kishiro. Parmi mes influences, les gens citent parfois le film Rollerball. Peut-être que Kishiro s'en est inspiré, puisque le Motorball est au centre de ses bandes dessinées. Parfois, les artistes ont tendance à pasticher leurs différentes influences, mais dans mon cas, si c'est dans le film, c'est parce que c'est présent dans l'œuvre originale. Même le graphisme est très réaliste. Pour moi, quand on faisait l'épaule d'Alita, qui est le plus souvent cachée par son t-shirt, ça m'importait peu qu'elle soit articulée correctement. Mais James Cameron n'est pas du tout comme ça. Il faut que ça fonctionne ou il n'y croit pas. Il était là, montrez-moi son articulation. Non, elle ne pourrait pas bouger, il faut corriger. Il demandait alors au gars de la redessiner pour que ça fonctionne. C'est la première fois que je réfléchissais comme ça. On s'est davantage basé sur la réalité que sur la fiction.
Alors, reste-t-il quand même de la fiction ? Tu vas nous le dire, Manu.
Oui, tout de même. Alors, c'est vrai que c'est une genèse un peu étrange pour un film attendu, mais qui s'annonce comme étant un bide monumental, en fait, d'après les premières estimations.
Ah zut !
Oui. Alors, en partie injustifié, car Alita n'est ni la catastrophe, ni le grand film malade que certains vont essayer de nous faire gober. La plus grosse déception tient en premier lieu, alors c'est là que c'est surprenant, à son scénario simpliste, alors dénué de double lecture, de réflexion sur le devenir de l'homme et la machine. Un des thèmes favoris de Cameron, comme hein, préférant se contenter d'une histoire familiale. Alors donc, cette histoire, c'est Alita, hein, jeune et jolie cyborg, qui se réveille sans aucun souvenir. Elle est recueillie et rafistolée par un médecin, Ido, alors sorte de croisement, on va dire, entre Gepetto et le docteur Frankenstein. Ce dernier sait qu'Alita est un être d'exception, hein, au passé extraordinaire, ayant sans doute vécu sur Zalem, lieu mystérieux qui flotte au-dessus d'Iron City, ville cosmopolite où cohabitent cyborgs et humains. Alors ce n'est que lorsque les forces corrompues qui gèrent la ville se lancent à la poursuite d'Alita que cette dernière découvre ses capacités physiques et une partie de son passé. Elle est une guerrière maîtrisant comme personne certaines techniques de combat. Elle apparaît alors comme un danger aux yeux des dirigeants. Parallèlement, comme c'est une jeune fille robot qui découvre le monde, elle va aussi tomber amoureuse d'un jeune homme. Bref, le synopsis ne brille pas par son originalité. Pire, la bluette sentimentale a tendance à tirer le film vers le bas, accumulant des situations vues mille fois ailleurs. Les enjeux paraissent flous, voire incompréhensibles, ramenant finalement les méchants à une fonction, on va dire, purement symbolique ou décorative même. Ils sont méchants parce qu'ils sont méchants, en fait. Hein. C'est un peu ça, mais rien ne paraît vraiment développé. Alors heureusement que d'un point de vue visuel, le spectacle est à la hauteur des espérances. À commencer par le personnage d'Alita, avec ses grands yeux d'héroïne de manga et son look retouché numériquement. Hein, Rosa Salazar parvient à humaniser son personnage en quête existentielle. Elle incarne à merveille cette guerrière touchante et pourtant implacable quand il s'agit de zigouiller du cyborg. Elle éclipse tous les autres partenaires, hein, même si on retrouve avec plaisir Jennifer Connelly dans un rôle assez trouble de pseudo-méchante. Et bien sûr, Christoph Waltz, moins cabot que d'habitude. La dimension tragique d'Alita est esquissée, mais perdue au détour de quelques séquences très belles, comme celle où elle retrouve son armure. Alors si le numérique envahit globalement le film, hein, à commencer par les androïdes et certains personnages en motion capture, La ville d'Iron City a été construite réellement, hein, en écoutant l'interview, dans les studios de Rodriguez. Elle est vraiment vivante, elle grouille de gens de toutes origines. Ça fait penser parfois à un côté Blade Runner, mais un peu solaire. Hein. Donc cet aspect physique, organique, apporte beaucoup à la réussite plastique de ce spectacle plaisant, doté d'impressionnantes scènes d'action, filmées avec beaucoup de panache et de lisibilité surtout. Et on se dit finalement que Rodriguez n'était pas qu'un simple exécutant à la salle de James Cameron. On lui doit, je pense même, quelque part, sa part la plus créative, même s'il a fallu, je pense, un petit peu le contenir un peu pour pas qu'il délire un peu comme dans certains de ses films.
Non, je pense qu'il a été suivi de près à la culotte, hein. C'est ce qui ressort quand même de l'interview. Voilà, Alita, donc le gros blockbuster, un autre film qui n'a rien à voir, petit film, Un ange qui parle de la vie, enfin de la fin de vie d'un coureur cycliste, Frank van der Broek.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
On a dit que cette chambre était dans un hôtel de passe. Et qu'elle était au nom d'une pute sénégalaise. C'est-à-dire moi.
Alors, je te reprends juste par contre, Frank van den Broek s'appelle ici Thierry Belfond. Voilà.
Oui. Oui,
voilà. Bon, ce n'est pas vraiment son nom. Donc, Thierry Belfond, coureur cycliste belge adulé de tous, décide de partir se ressourcer au Sénégal après une course malheureuse et un test positif à la cocaïne. Enfin, se ressourcer, c'est vite dit. Hein, le jeune homme étant devenu sérieusement accro aux substances illicites à force de se doper, il compte surtout rejoindre son frère à Dakar pour picoler, se droguer et rencontrer des filles. Il tombe amoureux aux premières gares de Fatou, une jeune et belle prostituée sénégalaise, mais la lune de miel est de courte durée puisque son cœur lâche au cours de leur première nuit ensemble. Le réalisateur belge Coen Mortier s'attaque ici à un fait divers bien connu dans le monde du cyclisme, la mort sordide de Frank van den Broek, coureur émérite mais bien camé, qui décéda donc dans des circonstances peu reluisantes. Ni social, ni romantique, le film prend l'histoire par là où personne n'y avait pensé, avec un traitement onirique entremêlant rêve, réalité, fantasme et angoisse dans un rêve pensé comme un cauchemar. Il suit ces deux personnages en errance, destinés à unir leur solitude, Thierry et Fatou, à travers un montage parallèle plutôt inspiré dans un Sénégal nocturne aux lumières vives qui semble hors du temps et refuse tout exotisme. Ce que l'on aime, c'est la pudeur du film, sa poésie, le fait qu'il laisse entrevoir des bribes du passé du coureur et qu'il adopte le point de vue de la prostituée. Alors dommage que le film manque de subtilité et soit assez démonstratif. En établissant par exemple un parallèle dans le rapport que les deux personnages entretiennent à leur corps, le corps comme outil de travail, le corps que l'on pousse à bout et que l'on dope, le corps que l'on donne à ses fans, le corps que l'on donne à ses clients, le parallèle est parfois un peu poussé, un peu lourd, surtout quand il est surligné avec insistance par des dialogues très artificiels. Les comédiens font d'ailleurs ce qu'ils peuvent pour en venir à bout. Ils parviennent plutôt pas mal. Fatou Ndiaye possède un charisme fou et Vincent Rottier, donc dans le rôle principal, toujours très intense, rentabilise ici sa nouvelle sèche obtenue sur le tournage de Sauver ou Périr dans lequel il interprétait un pompier aux côtés de Pierre Niney. Les expérimentations visuelles du film le rendent profondément immersif, un peu comme un labyrinthe dans lequel on s'enfoncerait de plus en plus et d'où la violence peut surgir à n'importe quel moment, ce qui rend l'ensemble assez angoissant, ce stress nébuleux étant maintenu pendant 1h30 avec une musique omniprésente, lancinante, obsédante qui achève de nous déstabiliser. En définitive, je dirais que le film ne nous fait pas passer un moment vraiment très agréable, parce qu'il nous rend autant perdu et à bout de nerfs que son personnage principal, mais il vaut le coup d'œil quand même, ne serait-ce que voilà, justement pour ces expérimentations visuelles, qui sont quand même très originales et très intéressantes.
Nous parlions du film Un ange dans les salles depuis le 13 février, tout comme Le silence des autres. Franco meurt, mais l'Espagne, plutôt que de comptabiliser les crimes, eh bien, vote une loi pour les enterrer, sauf que les victimes du franquisme, elles, n'oublient pas.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Même si l'Espagne a voté une loi d'amnistie pour renfouir la mémoire, elle est loin d'en avoir fini avec son passé, le franquisme. C'est le point de départ du film documentaire Le silence des autres, réalisé par le couple américano-espagnol Almudena Caracedo et Robert Bahar. Un documentaire exemplaire qui sait doser petites histoires, souffrances, interrogations, révoltes, émotions et leçons d'histoire. L'entrée en matière du silence des autres est remarquable. En une séquence, les réalisateurs dévoilent ce que nous allons voir, c'est-à-dire l'échec du présent à annuler le passé. Nous suivons une vieille femme au bord d'une route récente. Alors après un petit parcours, la vieille dame se pose en bord de route et nous explique que c'est ici que sa mère a été jetée dans la fosse commune après avoir été arrêtée, mise à nu, battue et finalement tuée. Ce crime, comme d'autres, remonte au moment d'état militaire des franquistes contre la République espagnole, il y a donc plus de 80 ans. Un crime oublié. En 1977, deux ans après la mort de Franco, dans l'urgence de la transition démocratique, l'Espagne vote la loi d'amnistie générale qui libère alors les prisonniers politiques, mais interdit également le jugement des crimes franquistes. Au nom de l'unité nationale, tout le monde est prié d'oublier. Sauf que les victimes n'oublient jamais, surtout pas un homme qui habite la même rue que son tortionnaire, une rue qui porte d'ailleurs le nom d'un général franquiste. Voilà, c'est un personnage qu'on voit à l'intérieur de ce documentaire. Les deux réalisateurs qui ont débuté leur film en 2010 ont su saisir le moment où les choses ont bougé à la faveur d'une action intentée depuis l'Argentine. Les autorités espagnoles ont dû répondre des actes de certains anciens franquistes qui ont coulé une vie douce quand ils n'ont pas été également dans le cercle du pouvoir. Entre survivants du franquisme, parents de victimes, avocats des droits de l'homme et aussi la juge argentine qui porte à bras-le-corps la révocation de l'amnistie, les réalisateurs s'emploient à rendre compte du combat présent. Ils naviguent entre cette mémoire qui ressurgit dans les mots de ceux qui l'ont vécu, quelques images d'archives et les actions en justice. Pour nous, Français, on pourrait imaginer que cela importe peu. Pourtant, Franco, c'est l'histoire de l'Europe et cette mémoire étouffée peut également s'apparenter à notre réaction de déni face au conflit algérien. Le silence des autres est un documentaire sensible, intelligent, une entreprise salutaire. On écoute Almudena Caracedo nous parlait de son film. Elle a tenu à parler en français. C'est pas forcément sa langue. Elle parle d'abord espagnol et anglais parce qu'elle a vécu à New York. Voilà, je l'ai laissé parler français. Donc je vous demande de tendre l'oreille et d'être patient.
Españoles, Franco a muerto.
Almudena Caracedo, on ne peut pas faire l'économie de la genèse du film, parce que nous, en tant que spectateurs, on voit une femme qui nous raconte la mort de sa mère, donc on est très loin dans le passé, mais vous, ce n'est pas comme ça que vous avez commencé cette histoire. Alors, ça vient d'un autre événement.
Il y a deux commencements. Un moment, c'est quand j'étais en train de comprendre que c'était une histoire que je devais... faire. Alors, c'est une histoire qui crée beaucoup de douleurs à l'intérieur. Mais il y a un moment de 2010 qui l'histoire des bébés volés a sorti. C'est le moment de production a commencé. C'est pas une histoire sur la mémoire, c'est pas une histoire sur le passé. C'est une histoire qui se passe essentiellement en présent. On voyage dans le temps pour comprendre le présent, mais essentiellement c'était très important pour nous et pour aussi combattre beaucoup des affirmations sur c'est une histoire du passé ou comment il doit voir le futur et tout ça. C'était important d'être présent parce que la souffrance des personnages est totalement présente.
Il y a une partie dans votre documentaire où effectivement on voit les victimes de ceux qui ont cette mémoire qu'on veut leur enlever. Est-ce que vous avez cherché, parce qu'il y a quand même des séquences très très émotionnelles, comment vous avez dosé ça entre l'émotion et puis finalement tout ce que vous nous apprenez sur les crimes passés?
Ouais, le montage c'est toujours difficile parce qu'on doit mettre dans le film beaucoup des histoires, beaucoup des personnages, un procès international juridique très compliqué, des sections d'histoire. Vraiment, c'est très difficile de mettre tout ça dans le montage. Mais on a passé une année et demie dans la salle de montage pour le faire. Je pense que c'était important pour nous de pouvoir montrer la douleur, mais aussi les moments des satisfactions, les moments où les personnages réussissent à trouver quelques moments de joie et de succès. Alors, on parlait aussi de l'intimité qui s'est produite parce que je suis la personne qui est dans la caméra et mon compagnon, alors, il était une équipe de deux personnes seulement. Tout ça se montre dans le film.
Alors nous, on est français, on pourrait dire que ce n'est pas notre histoire, sauf que c'est l'histoire de l'Europe. Franco, on connaît. Et puis, le vol des bébés, l'histoire dont vous partez, ça a été connu en France. Et puis, ça a été récupéré aussi par le cinéma, notamment espagnol. Mais en revanche, c'est vrai que votre film regarde finalement toute l'Europe. Et il est important, j'imagine pour vous, qu'il soit vu par des Européens.
C'est très important pour deux raisons. Un, c'est parce que... En Espagne, je pense que l'Europe a beaucoup de responsabilités dans le conflit espagnol. C'est pas une chose qui s'est passée là-bas. Et deux, parce que dans les moments qu'on est maintenant, dans ces moments de résurgence de la droite, de l'extrême droite, c'est un moment très important pour récupérer et notre histoire.
Quizá entre todos, todas, un poco quizá hemos colaborado, ¿no? En ese silencio.
Vous écoutiez Almudena Caracedo, co-réalisatrice de Le silence des autres, qui a remporté le Goya du documentaire, donc l'équivalent des Césars en Espagne. Maintenant, nous allons parler de la favorite de Yorgos Lanthimos après Canine de Lobster et Mise à mort du cerf sacré. Eh bien, le réalisateur grec confronte Rachel Weisz et Emma Stone et ça clash.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
C'est parfois amusant d'être reine.
Allez-vous-en ou bien je vais vous rouer de coups. Jusqu'à épuisement.
Ma chère amie, quelle joie de vous revoir après...
L'enfer. Je suis sûre que vous y passerez aussi un jour.
Alors on avait laissé le grec Yorgos Lanthimos avec son difficilement supportable portrait de famille d'une... portrait de famille bourgeoise dysfonctionnelle, Mise à mort du cerf sacré, monument de pseudo-subversion chic et toc. Alors là, il revient avec La Favorite, un film en costume, plus consensuel en apparence, qui devrait d'ailleurs séduire le public et pourrait même rafler au passage quelques Oscars. D'abord, il y a un contexte historique, début 18e, l'Angleterre et la France sont en guerre, la reine Anne, à la santé défaillante, occupe le trône en apparence, laissant le soin à sa favorite, Lady Sarah, de gouverner pour elle. Mais une nouvelle servante, Abigail Hill, va bouleverser les petites habitudes de Lady Sarah, d'abord prise sous son aile, pensant qu'elle pourrait être une alliée. Abigail va s'avérer une redoutable stratège dans le but de renouer avec ses origines aristocratiques, bafouées par son père ruiné. Dévouée aux enjeux politiques du pays, Sarah va progressivement laisser du terrain à Abigail, qui va gagner la confiance de la reine et devenir par la même occasion sa nouvelle confidente. Alors un jeu cruel va animer les deux femmes, Abigail est bien déterminée à gagner la bataille. Alors le pouvoir et la domination sont au cœur du sujet de cette farce cynique et vénéneuse qui assume jusqu'au bout sa misanthropie. Alors ce jeu de massacre qui ne s'autorise aucun rayon de lumière confirme la position de Yorgos Lanthimos en peintre lucide mais assez haineux de la décrépitude de l'âme humaine. La truculence des dialogues séduisent par une irrévérence dépoussiérant un genre enfermé dans les conventions.
Je suis prête pour l'ambassadeur de Russie.
Qui vous a maquillé ?
Nous voulions un effet théâtral, vous aimez ?
On dirait un blaireau. Vous n'allez pas pleurer, franchement. Bien. À quoi ressemblez-vous, alors ?
À un blaireau.
Pensez-vous vraiment recevoir la délégation russe avec ce masque ?
Non.
J'en fais mon affaire. Rentrez dans vos appartements.
Merci.
Alors la jubilation de la première demi-heure, surtout servie par un trio de comédiennes en tout point remarquables, donc Emma Stone, Rachel Weisz, et la surprenante Olivia Colman,
qui a remporté mais plein de
qui
distinctions.
Qui ressemble bizarrement à Olivier Gourmet, mais bon, ça c'est... Bref.
Un blaireau, voilà.
Voilà. Donc voilà, en fait, cette jubilation laisse néanmoins place à un moment donné à une gêne, puis à une exaspération. Lanthimos regarde de haut ces personnages pathétiques, ne leur autorise aucun sentiment, ou alors il les ridiculise à l'image d'une reine affaiblie, plus à plaindre qu'émouvante. Pourtant, derrière, il y avait de quoi réaliser un film plus fiévreux d'amour fou entre la première dame du pays et une favorite. Mais visiblement, le cinéaste ne s'intéresse pas à la passion déraisonnée, fascinée par la haine et la méchanceté. L'amour, en fait, reste un territoire assez étranger à ses yeux. Il force le trait à coups de dialogue très cru et de scènes scabreuses sans jamais épouser le point de vue d'un personnage ou de leur donner la moindre chance. L'émotion empathie, elle est pire mal, elle est le grand absent de cette tragique comédie vraiment brillante, cela dit, mais parfois assez vaine. La mise en scène cohérente, usée abuse d'ailleurs de grand angle au point de donner l'impression d'enfermer ces misérables pantins dans un aquarium géant. Et finalement, c'est bien ça. Lanthimos ne filme rien d'autre qu'un aquarium où s'agitent des poissons naviguant dans une eau boueuse, sale, pleine d'obstacles. Nul échappatoire n'existe puisque la seule porte de sortie, l'air libre, étant synonyme d'une agonie inexorable. La favorite ne manque évidemment pas de qualité. En l'occurrence, une photographie somptueuse qui rappelle à certains moments Barry Lyndon. Et puis un montage très nerveux, mais reste prisonnier de son dispositif programmatique et méprisant, nous renvoyant à une vision purement négative de l'humanité. Et puis on a le droit de ne pas aimer ça, tout en concédant, je dirais, un talent incroyable de metteur en scène. En fait, je pense que c'est un grand metteur en scène, Yorgos, mais, Moi, parfois, je trouve ça un peu désagréable.
En tout cas, vous aurez l'occasion de voir Olivia Colman, donc, qui a remporté la Coupe Volpi à Venise, qui a remporté le prix de la meilleure actrice au BAFTA, donc britannique, et Golden Globes, et qui, à mon avis, fera aussi les Oscars.
Elle avait joué dans un film qui s'appelait Tyrannosaure, qui était assez incroyable. C'était son premier film,
son premier rôle. Elle joue un Tyrannosaure, donc c'est dire. Allez, on vous est écharpé peut-être, en tout cas, vous n'êtes pas d'accord sur un film, celui de Felix van Groningen.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite. Je sais maintenant que je dois trouver le moyen de combler cet immense trou noir qui est en moi.
Oui, c'est un film et non un fixe. Quoique.
Quoi qu'on en parle beaucoup du coup dans le film de fixe.
Oh, très peu finalement. Hein. Alors, ce premier film américain du réalisateur d'Alabama Monroe et de Belgica est l'adaptation conjointe de deux romans, hein, mieux deux autofictions, qui ont été écrites par les personnages principaux du film. Hein. Il s'agit de l'histoire du journaliste David Sheff et celle de son fils aux prises avec la drogue, combinées en un seul film. Ce qui pose un problème de taille en passant d'un point de vue à l'autre, hein, sans jamais trancher, My Beautiful Boy se transforme au fil des minutes en mélo lacrymal, dénué de la moindre personnalité, cherchant juste l'émotion facile, à coup d'effets grandiloquents. Alors on est trimballé du père au fils sans jamais saisir les intentions du réalisateur, en restant à la surface des personnages, sauf pour insister sur la souffrance réciproque qui les anime. Felix van Groningen s'appuie sur une dramaturgie assez lâche, sans réel fil conducteur, succession de scènes démonstratives. Alors le fléau de la drogue a donné quelques grands films, de Panic à Needle Park en premier lieu, et surtout le plus grand pour moi, c'est Mort de Barbet Schroeder. En soi, l'histoire édifiante de My Beautiful Boy mérite qu'on s'y attarde. David est un père aimant, ne sachant comment faire pour sauver son fils toxicomane, allant de centre en centre de désintoxication. Il est présenté comme un homme droit, se posant des questions sur la manière dont il a éduqué un fils brillant et sensible, trop sans doute. Par instant, les rapports père-fils parviennent à émouvoir au détour d'un plan, d'un regard, d'un dialogue juste. Hélas, tout est surligné au marqueur, en premier lieu par une bande-son omniprésente constituée de tubes d'ailleurs magnifiques, hein, puisque des années 70 à nos jours, donc de Neil Young à Sigur Rós en passant par Nirvana, au point que j'arrivais à détester des morceaux que j'adore habituellement. Mais, bon. Mais dont la fonction racoleuse consiste à chaque scène d'en remettre une couche sur l'aspect épidermique. Une telle histoire demandait davantage de sobriété et surtout du silence. Or, Felix van Groningen, en artiste torturé, préfère la démonstration en force au pouvoir de la suggestion. Les affrontements entre le père et le fils sont plombés par tous les défauts du cinéma psychologique entre les non-dits insistants et la grandiloquence de certains dialogues.
J'ai fait pas mal de recherches.
T'as fait des putains de recherches? Non. Écoute, mais tu te fous de moi, papa?
Tu penses que tu peux contrôler ta consommation? Et je comprends les angoisses que tu as.
Moi aussi, je comprends pourquoi je le fais et ça change pas le résultat, ok? Je suis attiré par la folie et toi, tu te sens mal parce que je suis... Ce que t'as créé, oui, voilà ce que t'as créé de plus personnel, ta création, ton œuvre. Enfin, t'aimes pas ce que je suis devenu.
Ah oui? Et qu'es-tu devenu, Nick?
C'est ce que je suis, papa, et oui, je suis comme ça, moi.
En acceptant une commande, en rejoignant pourtant les préoccupations de ses précédents films, le cinéaste belge a en revanche abandonné toute ambition formelle. Alors la petite marque de fabrique de ses précédents films, soit un style visuel ou la caméra collée au corps dans un montage parfois épileptique, qui signifiait une urgence, est gommée au détriment d'une mise en scène à tonnes, succession de champs contre champs, de plans moyens et de plans de coupe panoramiques pour les transitions. Alors, voilà, après, le film est très bien joué, mais moi, je trouve ça assez pathétique.
Alors, moi, je n'ai absolument pas vu de mélo lacrymal ici. En fait, comme toujours chez Felix van Groningen, donc le réalisateur du film, la musique prend le relais lors des scènes d'émotion. Elle est le vecteur qui traduit le ressenti des personnages. Alors oui, elle est omniprésente, mais ce n'est pas juste pour donner un côté cool au film et pour satisfaire les envies de rock du réalisateur, puisque les deux autobiographies en fait, des personnages étaient apparemment truffées de références musicales, parce que la musique tenait une place prépondérante dans la relation du père et du fils. Et donc, il y a eu un grand travail de recherche de la part du réalisateur pour recréer cette bande-son. Alors, autant Alabama Monroe était très surligné et trop mélo, je suis d'accord, autant ici, eh bien, je trouve que la pudeur est quand même extrême, entre autres grâce à la direction d'acteurs. Comme tu l'as dit, les deux comédiens sont très bons. Steve Carell et Timothée Chalamet, pour moi, c'est une leçon d'acting. Ils sont d'une justesse folle. Et sans non plus avoir un jeu monolithique, c'est-à-dire que leur jeu évolue à chaque scène. Et ça, je pense que c'est quand même assez remarquable. Au niveau mise en scène, pourquoi ce n'est pas Putassier, à mon sens ? Eh bien parce que plutôt que d'opter pour un crescendo dramatique, c'est-à-dire un scénario très classique où on verrait d'abord la relation idyllique du père et du fils, puis ensuite le fils qui tombe peu à peu dans la drogue, eh bien le montage du film qui est excellent nous plonge directement au cœur de la crise familiale pour ensuite remonter le temps à coups de flashback. Et je pense que le montage est parfaitement ciselé et empêche tout traitement académique du sujet sans pour autant partir dans des expérimentations visuelles de type Requiem for a Dream. Et je ne trouve pas, pour finir, eh bien, qu'il y ait de complaisance, puisque c'est quand même surtout le point de vue du père qui est adopté. Par exemple, on ne voit le fils se droguer que très tard dans le film. Alors que le film pourrait totalement aligner les scènes sordides, et il ne le fait pas. Je pense que My Beautiful Boy, en conclusion, eh bien, vaut quand même beaucoup mieux que son affiche ultra pompeuse, le combat d'un père pour son fils au secours. Ce que montre le film, et qu'il montre bien, eh bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de trauma pour tomber dans l'addiction, que les problèmes d'addiction arrive dans des familles tout à fait fonctionnelles et tout à fait aimantes. C'est un sujet qui était notamment déjà abordé dans un film français de l'année dernière qui s'appelait La fête est finie. Et je trouve que ce point de vue est très intéressant et qu'il est, dans My Beautiful Boy, très bien abordé.
Eh bien voilà, ça arrive qu'on ne soit pas d'accord dans cette équipe.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible !
Non, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
Alors, la semaine prochaine, on aura notamment Le Chant du Loup.
Oui, un film français, un film d'action français qui, pour moi, signe le renouveau du cinéma d'action en France. J'ai adoré.
Et puis un documentaire, Rencontre avec mon père, et un autre sur Picasso.